Du Ghana à Suzanne Césaire avec Annette Joseph Gabriel.
En sol majeur, Yasmine Chouaki.
En sol majeur.
Quoi de mieux pour poser un regard sur l'histoire française noire qu'une fenêtre anglophone ? Préparez vos oreilles et vos lunettes, car le mot « intersection » va sans doute tomber en sol majeur dans la conversation, car c'est à l'exacte intersection de la francophonie et de l'étude des mouvements féministes qu'Annette Joseph Gabriel s'est mise à soulever un voile, celui de l'invisibilité. Universitaire jeune et belle, oh, ça change. Cette professeure d'études féministes en Caroline du Nord aux États-Unis cherche, c'est son job. Elle cherche à ne pas oublier cette femme noire effacée de l'histoire de la décolonisation française. De Suzanne Césaire à Hawa Keïta en passant par Eugénie Ebouetel, imaginer la libération des femmes noires face à l'Empire, c'est cette petite Bible indispensable qu'elle signe aux éditions Robocric. Belle traversée que celle de notre invitée franco-ghanéenne, qui pour comprendre la question de l'aliénation sera passée non pas par l'Afrique, mais par la Martinique. Bonjour Annette Joseph Gabriel.
Bonjour Yasmine.
Et bienvenue chez le Chevalier de Saint-Georges que vous avez convié en sol majeur. J'imagine que ce n'est pas un hasard.
Pas du tout, non. C'est un son qui, pour moi, évoque l'histoire parfois surprenante du monde atlantique. Le Chevalier de Saint-Georges, bien sûr, étant le fils d'un Français et d'une mère esclave en Guadeloupe, qui a fait son parcours en tant que musicien, en tant que militaire durant la Révolution française. Pour moi, c'est retracer ce chemin, en fait, d'un personnage qui a eu une vie extraordinaire.
C'est le Mozart noir, hein, c'est comme ça qu'on le surnommait. Donc, né en 1745, né esclave, donc en Guadeloupe, et néanmoins figure brillante du siècle des Lumières. C'est peut-être qu'on peut dire qu'il incarne le paradoxe de l'Empire, on y reviendra. Est-ce qu'on ferait un saut dans le temps ? Vous êtes prête pour The Archive ?
Absolument.
Ça se passe du côté du Ghana en 1957.
Ghana ! Your beloved country is free forever. From now on, there is a new African in the world. That new African is ready to fight his own battle and show that after all, the black man is capable of managing his own affairs.
M comme mantra.
I want you all, those who have hats on, to take off your hats and let the band play our national anthem. And from now on, That national anthem is the national anthem of the Bogo to be played on all occasions.
Célèbre discours de Kwame Nkrumah, discours d'indépendance, qui vous a marqué, Annette, on va dire des années après, hein, puisque vous êtes née en 1986. Pourquoi il vous a marqué ce discours, enfin ? Il y a mille raisons.
Il y a mille raisons, je vais peut-être évoquer deux. La première raison, c'est que c'est un point tournant dans l'histoire africaine et l'histoire du Ghana. Donc le Ghana étant le premier pays subsaharien en Afrique d'avoir gagné son indépendance. Mais la deuxième raison, en fait, c'est que mon grand-père maternel était le secrétaire de Nkrumah dans le premier gouvernement du Ghana.
Wow.
Et donc c'est quand même l'histoire nationale et l'histoire familiale. Donc on entend Nkrumah qui parle de l'homme africain, de l'homme noir dans ce discours. Mais dans l'histoire familiale, on raconte dans ma famille que ma grand-mère était là sur la place d'indépendance en train de danser avec ma mère qui avait un an à cette époque-là.
Bon, évidemment, on n'a pas l'archive hein, parce que les femmes ne sont pas vraiment visibles. Mm-hmm. Donc un grand-père, Jonathan
Tchinebois,
engagé, vous diriez, indépendantiste de la première heure ?
Absolument. Donc, il était très fier du rôle qu'il a joué dans cette histoire en tant que secrétaire de Nkrumah.
Oui, il vous l'a raconté ?
C'est-à-dire ?
Il vous a raconté exactement ce qu'il a fait aux côtés de Nkrumah ?
C'est très intéressant. Non, pas du tout. C'est une période qui est à la fois une période de joie et une période de douleur. En 1966, en fait, avec le coup d'État qui a déchu Kwame Nkrumah, mon grand-père a été enlevé durant le coup d'État. Et il est revenu quelques jours plus tard, blessé, couvert de sang. Et il n'a jamais raconté ce qui s'est passé.
Alors vous, Annette, vous parlez à propos de ce discours d'indépendance de Kwame Nkrumah, de mantra ghanéen. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement ?
Alors, le mantra ghanéen, c'est la phrase qu'on apprend à l'école, tous les enfants au Ghana, c'est que le Ghana a été le premier pays sous-saharien à gagner l'indépendance.
Et alors, ça fait un lien avec vos recherches ensuite ?
Oui, parce que pour moi, donc, en fait, il n'y a que deux possibilités politiques. Soit on est une colonie, soit on est un pays indépendant. Et donc, lors de mes recherches, en fait, je commence à lire des textes, par exemple, des textes d'Aimé Césaire, et j'apprends qu'il y a des pays qui ne sont ni colonies, ni des pays indépendants. Donc, je pense, par exemple, à la Martinique, qui est un département d'outre-mer de la France. Je me suis interrogée sur ce statut politique. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, de ne pas être un pays indépendant, mais de ne pas être non plus vraiment une colonie ?
Et alors, qu'est-ce que vous découvrez en Martinique, puisque vous partez carrément là-bas ?
Oui, je passe un an d'abord en Martinique, en tant qu'étudiante à l'université. À l'époque, c'est l'Université des Antilles-Guyane. Et je découvre tout simplement que c'est très compliqué.
C'est-à-dire
c'est une réalité, en fait. C'est une question de vivre cette identité hybride. Entre les Antilles et l'Afrique, et aussi la France, l'Europe, l'héritage des populations indigènes qui étaient quand même aux Amériques avant l'arrivée des colons. Donc c'est vraiment être entre plusieurs influences et de créer quelque chose de nouveau à partir de ces influences.
Vous n'êtes pas banale, Annette Joseph-Gabriel, parce qu'en général, les Africains-Américains opèrent un retour lorsqu'ils sont à la recherche de leurs racines vers l'Afrique. Mais donc vous êtes en Martinique. Est-ce que vous découvrez quelque chose sur votre propre passé ?
Oui, je pense que je suis partie en Martinique à la recherche de mes ancêtres. Parce que pour moi, en fait, le retour vers ses racines, ce n'est pas uniquement le fait d'aller de la diaspora africaine en Afrique pour retrouver cette Afrique figée dans le passé. Mais pour moi, en Martinique, j'ai entendu par exemple le créole, qui est une langue que je ne comprenais pas à l'époque, mais qui m'était très familier au niveau du son, au niveau sonore. C'est comme si je comprenais en fait, mais pas du tout en même temps. Donc c'était une question de négocier ce que ça veut dire de se reconnaître quelque part à travers la langue, à travers la nourriture, etc. Mais aussi de constater que tout est étrange en même temps.
Dans certaines de vos œuvres, vous avez marqué un retour au folklore antillais. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas poussé l'expérience jusqu'au bout et écrit en créole ?
Vous avez parfaitement raison, je ne suis pas du tout créolisant. Pas du tout créolisant pour plusieurs raisons. Et c'est que peut-être j'ai très fort le sentiment de l'infirmité de cette langue qui s'appelle le créole, qui me paraît vraiment une petite langue régionale, d'une portée extrêmement limitée, non pas du tout que je la méprise, mais enfin pour en faire un instrument valable, il aurait fallu faire sur cette langue un effort aussi prodigieux que celui que les gens de la Pléiade ou les hommes du 16e siècle ont fait le français et pour en faire un instrument valable et utilisable. Est-ce que vraiment en 1962 cela en vaut la peine? Je n'en suis pas sûr.
On pardonnera à Césaire hein, des propos qui font sourire en sol majeur, mais pas seulement, qui vous choquent apparemment, Annette Joseph Gabriel.
Oui, c'est vrai que je trouve ça un peu scandaleux. Mais en même temps, alors, je comprends, c'est-à-dire que si on passe par la littérature, l'idée d'être alphabétisé, de savoir écrire et de s'exprimer à travers l'écriture, je comprends pourquoi il dit ça, Aimé Césaire. Mais en même temps, le créole est déjà une langue qui peut exprimer tout ce qu'on veut exprimer. C'est juste qu'il faut savoir d'abord travailler à partir de l'oral. Il faut savoir respecter l'oralité et il faut aussi savoir s'exprimer autrement.
Est-ce qu'il n'exprime pas lui-même d'ailleurs une forme d'aliénation? Mais vous, personnellement, à travers cette expérience martiniquaise, notamment de la langue, est-ce que vous découvrez quelque chose de votre propre aliénation?
Oui. C'est vrai que l'aliénation, je vis ça vraiment au niveau linguistique, parce que tout comme Césaire qui a du mal à s'exprimer en créole, au moins à l'écrit, c'est la même chose pour moi en Gan, qui est une de mes langues maternelles au Ghana. Ce n'est pas une langue que je sais écrire ni lire, d'ailleurs. C'est une langue qui reste uniquement une langue orale pour moi, parce que je n'ai pas la formation.
Oui, mais vous n'êtes pas dans... Parce que là, on sent une sorte de mépris quasiment hein, chez Césaire par rapport... Au créole martiniquais, vous n'êtes pas dans une posture de mépris par rapport aux langues africaines?
Absolument pas, non. Je trouve que ce sont des langues qui expriment une façon différente d'être dans le monde. Donc ce qui reste à faire, c'est notre formation.
Est-ce qu'il faut faire un lien entre votre citoyenneté française, parce que vous êtes française aussi, je crois que vous avez épousé un monsieur français, est-ce qu'il faut faire un lien entre cette citoyenneté et ce livre que vous consacrez aux femmes noires face à l'Empire?
Oui, c'est possible de faire le lien. Je pense que c'est aussi à travers mon expérience avec l'acquisition de la nationalité française que j'ai commencé aussi à m'interroger sur l'expérience des femmes noires en tant que citoyenne. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment d'être citoyen? Parce que c'est vrai que j'ai un passeport français, mais je dis très rarement que je suis française parce que je n'ai pas grandi en France et je n'ai pas pour moi les repères en fait de quelqu'un qui se voit vraiment en tant que français.
Donc c'est juste un papier pour vous?
Pas vraiment. Parce qu'il y a aussi quand même le fait d'avoir appris la langue française m'a ouvert tout un autre monde. J'ai aussi aujourd'hui des interlocuteurs, des gens que je compte comme ma famille. Et tout cela n'aurait pas été possible sans la langue française. Donc je ressens quand même ce rattachement à la langue, à l'histoire, à la littérature. Mais je pense qu'il faut peut-être un peu plus pour être citoyen.
Oui, justement, qu'est-ce que vous pensez de la manière dont la France accorde sa citoyenneté française?
Je pense qu'il y a l'accent qui est mis sur le sang, contrairement par exemple aux États-Unis, où c'est vraiment le droit du sol. Et pourtant, on voit à travers l'histoire qu'il y a des gens qui ont contribué vraiment à la formation de la nation française et qui méritent d'avoir la citoyenneté. Donc, c'est peut-être quelque chose à repenser. Qu'est-ce que ça veut dire exactement d'être citoyen? Et en repensant cette question, on repense la question « qu'est-ce que c'est la France ?»
Bon, alors un petit conseil maison, avant de lire, c'est ce qu'on va faire pour un sol majeur, faut toujours zouker.
Que c'est l'amour qui a commandé nous. Oui. A Sipo, en Nouni, soleil, à Danché, en Nouni, tambour, Paris, Manioc, et puis Coco, et puis Chalet. Chalet pour les mots, vous savez que les handicaps existaient. Que c'est l'amour qui a commandé nous. Et tout petit là. Et tout petit là. Ni on sait soleil, ni on sait la lune, et ni on sait cassave aussi. Quand l'avant la jacque a tourné, sous clavant on l'a dit, ou exploser pour inonder le monde entier.
Je pense que vous méritez votre passeport créole. Chère Annette Joseph Gabriel, est-ce que vous avez zouké pendant vos années martiniquaises?
Oh oui, j'ai bien zouké.
Donc passeport zouk aussi alors?
Ah oui, ce serait un passeport très important parce que pour moi c'est un passeport culturel. Mais oui, c'était une chanson que j'adore parce qu'on ne peut pas s'en empêcher, il faut danser quand même.
Cassave.
Voilà, de Cassave. Mais aussi c'est la juxtaposition entre ce son qui fait danser et les paroles qui évoquent quand même le bateau, les chaînes, et donc qui évoquent cette histoire terrible en fait. Donc c'est cette juxtaposition qui insiste quand même sur l'importance du passé, mais aussi sur la création et l'expression culturelle antillaise aujourd'hui.
Est-ce qu'on peut dire que c'est sur cette terre antillaise, donc mes côtés Martinique, Cassave est du côté de la Guadeloupe, je crois, je parle sous votre contrôle, que vos questions intellectuelles se sont ancrées pour évoquer ces penseuses noires qui ont été prises dans l'empire colonial français?
Oui, parce que pour moi, c'est une question de voix. Et c'est exactement ce que je retrouve dans les écrits de Suzanne Césaire, par exemple, des autres femmes noires, des femmes qui affirment qu'elles sont là, qu'elles existent et qu'elles ont aussi des choses à dire.
Donc pour en parler, on va plonger dans une archive qui pose le curseur là où il faut, je pense. C'est une archive du 18 juin 1940.
Cet armistice serait non seulement une capitulation, mais encore un asservissement. Or, beaucoup de Français n'acceptent pas la capitulation ni la servitude pour des raisons qui s'appellent l'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie. Je dis l'honneur, car la France s'est engagée à ne déposer les armes que d'accord avec ses alliés. Tant que ses alliés continuent la guerre, son gouvernement n'a pas le droit de se rendre à l'ennemi. Je dis le bon sens, car il est absurde de considérer la lutte comme perdue. Oui, nous avons subi une grande défaite, mais il nous reste un vaste empire, une flotte intacte, beaucoup d'or.
M comme Mère Patrie.
Avec en sol majeur sur RFI, donc une métropole française qui ne peut se sortir de l'occupation allemande que grâce à son empire, je crois que c'est le hashtag, c'est le mot-clé hein, du discours du général de Gaulle, car effectivement le sacrifice des populations colonisées pendant cette Seconde Guerre mondiale va changer la donne par rapport à l'identité nationale et l'empire colonial, Annette Joseph Gabriel.
Oui, et les femmes sont au cœur de cette histoire. Donc on a vraiment tendance à voir, par exemple, les hommes en tant que combattants, mais les femmes ont aussi fait partie de la résistance. Je pense à Eugénie Ebouetel, par exemple, qui était infirmière à l'hôpital militaire à Brazzaville. Je pense à Jeanne Vial, qui a travaillé en clandestinité dans la résistance dans le sud de la France à Marseille et qui a été arrêtée et internée dans un camp de concentration. Donc quand on parle quand même des femmes noires, elles sont impliquées dans cette histoire et les sacrifices sont aussi les sacrifices des femmes noires qui doivent être reconnues aujourd'hui.
Alors, vous nous brossez le tableau hein, de cette époque. Vous revenez sur la création de l'Union française avec l'abolition du statut colonial. Vous scannez, Annette, le contenu aussi de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et vous rappelez les mots de l'essayiste jamaïcaine Sylvia Winter, à qui ça n'échappe pas. L'homme en question, il est évidemment blanc, bourgeois, masculin, hétéro et chrétien. Et on referme la parenthèse définitivement. On en arrive à ce que vous appelez la colonialité du pouvoir et au concept de citoyenneté décoloniale. De quoi s'agit-il ?
Alors, la citoyenneté décoloniale cherche à décoloniser l'idée de la citoyenneté comme étant la relation entre l'individu et l'État-nation. Dans la citoyenneté décoloniale, il s'agit d'imaginer plusieurs formes d'appartenance, une pluralité de communautés sans hiérarchie. Et c'est ça qui est très important, en fait. Donc, ce n'est pas vraiment à l'État de dire « voici la définition de notre identité nationale » et c'est à tout le monde de s'assimiler à cette définition. Mais c'est vraiment au peuple d'affirmer et d'exprimer leurs appartenances différentes. Donc, on a par exemple des femmes qui parlent de leur appartenance en tant que panafricanistes. On a des femmes qui parlent de la solidarité transnationale. Tout cela, à mon avis, fait partie de la citoyenneté décoloniale qui refuse vraiment le pouvoir de l'État comme la voie singulière.
Alors, au cœur de ce dispositif que vous décrivez, il y a des penseuses et des militantes noires. Vous en avez ciblé 7. Rapidement, leurs noms. On va zoomer sur 3 figures, mais leurs noms.
Alors, il y a Suzanne Césaire, Paulette Nardal, Eugénie Ebouetel, Jeanne Vial, André Blouin, Awa Keita et Eslanda Robson.
Très joli casting. Alors, elles sont toutes invisibilisées, car on va dire que pour elles, en fait, c'est la double peine.
C'est la double peine en tant que femme, en tant que noire. Mais vraiment, elle se retrouve à l'intersection de cette invisibilisation, en fait.
Et puis, vous rappelez que la tradition francophone réserve son écoute majoritairement aux penseurs masculins, voire aux couples Césaire.
Oui, c'est ce qu'on retrouve vraiment avec la plupart de ces femmes, parce qu'elles sont pour la plupart rattachées à un homme célèbre. Il y a Eugénie Ebouetel, connue comme juste la femme de Félix Eboué. Eslanda Robson est la femme de Paul Robson. Suzanne Césaire est la femme de Aimé Césaire. Et pourtant, elles étaient beaucoup plus que ça.
Alors, qu'est-ce qui se passe dans le couple Césaire?
Alors, dans le couple Césaire, on voit la collaboration. Et en même temps, Suzanne Césaire, qui est un peu mise sous silence. Quand je parle de la collaboration, elle était éditrice de la revue Tropique, qui est apparue en Martinique durant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, Tropique n'est pas juste l'œuvre d'Aimé Césaire.
Ils vont en mission aussi en Haïti à un moment donné. Pour y faire quoi? Et quel est le statut de Suzanne à ce moment-là?
Ils vont en mission ensemble en Haïti pour avancer la cause de la culture française en Haïti, parce que la France se sent menacée, en fait, par la culture américaine qui a de plus en plus d'emprise en Haïti à cette époque. Leur rôle, c'est de donner des conférences, de parler de la grande littérature française. Suzanne Césaire accompagne Aimé Césaire.
Elle enseigne. Sans être rémunérée.
Sans être rémunérée, exactement. Et donc, elle est obligée d'emprunter de l'argent, par exemple, pour survivre, tandis que Aimé Césaire a un statut officiel qui lui permet d'être rémunérée.
Oui. Vous parlez de Suzanne Césaire, Annette, comme d'une visionnaire dans ses écrits. On va s'en offrir une petite lampée avec l'extrait d'un essai qu'elle a sans doute écrit après avoir fait Fort-de-France, Port-au-Prince, en 1944, et ce texte s'intitule « Le grand camouflage ».
C'est ainsi que l'incendie de la Caraïbe souffle ses vapeurs silencieuses, aveuglantes, pour les seuls yeux qui savent voir. Et soudain se ternissent le bleu des monts haïtiens, des baies martiniquaises. Soudain pâlissent les rouges les plus éclatants. Et le soleil n'est plus un cristal qui joue. Et si les places ont choisi les dentelles de Parkinsonia comme éventail de luxe contre l'ardeur du ciel? Si les fleurs ont su trouver juste les couleurs qui donnent le coup de foudre? Si les fougères arborescentes ont sécrété pour leur crosse de sucre doré, enroulée comme un sexe? Si mes Antilles sont si belles, c'est qu'alors le grand jeu de cache-cache a réussi. C'est qu'il fait certes trop beau ce jour-là pour y voir.
Dans votre En sol majeur, Annette Joseph Gabriel, il faut s'arrêter une seconde sur ce titre de Suzanne Césaire, Le grand camouflage. Il faut rappeler qu'on est en 1944, hein, c'est-à-dire en pleine période de censure vichysoise.
Oui. Et donc, en fait, elle va devoir écrire d'une certaine manière pour camoufler le message assez radical de ses essais, de ses écrits. Dans ce que je viens de lire, par exemple, il s'agit d'une description du paysage antillais.
Alors que
ce qu'elle exprime vraiment, c'est que ce paysage, la beauté incroyable qui coupe le souffle, est vraiment une beauté qui cache ou qui camoufle la réalité terrible aux Antilles, qui est l'héritage de l'esclavage et de la colonisation. Et en même temps, elle dit, il est important d'oser s'affirmer en tant qu'Antillais.
Oui, vous dites qu'elle est plus intéressée par la complexité de l'identité caribéenne que par un retour au pays africain.
Absolument. Et c'est aussi ça qui est radical dans la pensée de Suzanne Césaire. À cette époque-là, les penseurs du mouvement de la négritude se retournent vers l'Afrique comme la source des origines de l'homme noir, comme leurs racines. Pour Suzanne Césaire, elle dit qu'il ne s'agit pas d'un retour vers une Afrique que nous avons quand même appris à connaître et à respecter. Elle ne renie pas l'Afrique, mais elle dit quand même que c'est aux Antilles même qu'elle, elle va s'enraciner. C'est aussi aux Antilles qu'on retrouve les racines d'une civilisation.
Elle évoque l'homme-plante.
L'emplante, comme vraiment cet Antillais avec ses orteils enracinés dans le sol, dans la terre des Antilles. Les Antilles, pas juste comme un lieu d'effacement, mais aussi comme un lieu de création et d'expression.
D'ailleurs, elle était absolument respectée sur le plan littéraire par un certain André Breton. Alors parmi ces femmes noires face à l'Empire, sous-titre de « Imaginez la libération » donc que vous sortez chez Robocrick, Annette Joseph Gabriel, vous zoomez sur un tandem, vous en faites un tandem, et j'aimerais bien savoir pourquoi, sur Eugénie Ebouetel et Jeanne Vial.
Parce que pour moi, ce qui lie l'Afrique et les Antilles, ce n'est pas uniquement le fait d'avoir été colonisé par la France. Ebouetel et Jeanne Vial ont pensé d'autres liens de solidarité. Comment, par exemple, penser un féminisme transnational qui ne passe pas forcément par le fait de la colonisation, mais par d'autres manières de comprendre la solidarité.
Donc deux figures qui incarnent le féminisme noir, et par exemple lors d'une soirée avec l'Association des femmes de l'Union française, Jeanne Vial, dont on va entendre la voix, c'est une rareté, hein, on n'a pas la voix de Suzanne Césaire, j'en pleurerais presque. Hein. Mm-hmm. Jeanne Vial, donc, qui est secrétaire de cette association des femmes et sénatrice de Lubangui, donc l'actuel Congo, Conseil de la République, elle explique au monsieur journaliste le but de cette association.
Eh bien, les buts, monsieur, sont assez simples, puisque nous voulons concrétiser l'Union française. Toutes nos réunions ont pour but de faire rencontrer les jeunes d'outre-mer en la personne des étudiants que nous hébergeons dans nos deux hôtels, jeunes gens et jeunes filles d'outre-mer, avec nos amis de la métropole. Et je compte beaucoup sur ces liens d'amitié qui peuvent s'établir entre les habitants de la France et des territoires d'outre-mer pour concrétiser l'Union française. Et je dois dire que la soirée de samedi a été une véritable réussite sur ce plan. Elle a été une réussite sur le plan artistique, puisque nous avions presque trop d'artistes. Il ne faut jamais se plaindre que la mariée est trop belle. Mais enfin, la partie artistique a retenu nos invités jusqu'à 4 heures du matin et sans lassitude. Et je dois dire que les SICO avec Sonar Sangor qui clôturaient cette partie artistique ont remporté un véritable triomphe.
Est-ce que tous les territoires de l'Union étaient présents à cette fête?
Oui, tous les territoires de l'Union étaient présents puisque nous avions Yanagami qui représentait l'Indochine, Sonar Sangor dont je vous ai déjà parlé, l'Afrique noire, Chukun, les Antilles. Oh, oui. Et dans la salle, il y avait Antillais, Indochinois, Malgaches. Et nous avions même des amis haïtiens.
Alors, en effet, c'était au complet.
Mille choses à dire dans votre ensemble majeur, Annette Joseph Gabriel, sur Jeanne Vial, métisse revendiquée, hein, mère congolaise, père français. Mais en même temps, quand on écoute cette archive, donc là, elle parle en tant que secrétaire de l'Association des femmes de l'Union française, à laquelle elle est très attachée, association qu'elle fonde hein, elle-même en 1948, on sent que cette citoyenne française noire croit en la promesse de la République française.
Et pourquoi pas? C'est une belle promesse. Pour elle, en fait, quand elle parle de l'amitié entre tous ces gens, pour elle, c'est une façon d'insister sur l'égalité. Ce mantra de la France, l'égalité de ses étudiants de territoires d'outre-mer avec les étudiants français aussi. Et donc, pour elle, vraiment, ça fait partie de cette promesse républicaine.
En même temps, elle est élue au Sénat, donc elle fait partie de l'élite.
Elle fait partie de l'élite, mais elle voit quand même les inégalités. Donc pour elle, son rôle au Sénat, c'est justement de proposer des lois qui vont essayer de rééquilibrer les choses pour que cette égalité ne soit pas uniquement sur papier. Par exemple, elle arrive à réunir des fonds pour acheter des bâtiments, mais des bâtiments entiers à Marseille, en France, pour héberger et loger des étudiants qui viennent des colonies.
En même temps, elle a une personnalité qui est intéressante. Je voyais que vous réagissiez à cette archive. Vous n'aviez jamais entendu la voix de Jeanne Vial. Elle a ce côté très, très français, comme ça. Hein. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en même temps, elle est très attachée à cette citoyenneté française. Elle ne veut pas rompre avec la France hein, après cette Seconde Guerre mondiale. Et en même temps, c'est une métisse revendiquée qui s'assume.
Oui, Et c'est un statut très compliqué pour elle. Elle est métisse, elle se voit aussi comme africaine, elle se voit aussi comme française, et il n'y a pas de conflit entre ces identités pour elle. Et c'est ça la citoyenneté décoloniale, c'est qu'on peut être plusieurs choses à la fois, ce qui est la prémisse de cette émission. Mais en même temps, c'est vrai qu'à cette époque-là, il y a aussi l'amalgame qui se fait entre identité nationale et identité raciale. Si on est africain, on est noir. Si on est européen, on est blanc, etc. Et donc pour Jeanne Vial...
Et si on est noir, on n'est pas français de la même manière.
Exactement. Et donc pour Jeanne Vial, son métissage va aussi troubler en fait cet amalgame qui se fait, de manière que moi je trouve assez productrice d'ailleurs.
Et avant-gardiste ?
Avant-gardiste aussi. Elle anticipe les débats que nous avons aujourd'hui, justement, sur l'identité nationale.
Alors, elle croit en la promesse de la République et en même temps... La représentation politique de l'Union française, évidemment, laisse à désirer. Et avec sa consœur dont vous nous parliez, Annette, Eugénie Eboué-Tel, qui n'est pas que la femme d'un certain Félix, elle est députée, elle est conseillère de la République et sénatrice de Guadeloupe. Ensemble, elles se lancent dans ce que vous disiez tout à l'heure, une espèce de politique anticoloniale. Elles incarnent, on le disait, un féminisme transnational, et c'est là que ça devient intéressant parce que vous racontez cette conférence de presse aux États-Unis en 1945 lorsque Eugénie Eboué-Tel expose aux journalistes afro-américains sa vision de la libération noire.
Pour Eboué-Tel, en fait, pour pouvoir libérer vraiment les colonies du joug du colonialisme, ce serait de leur donner la nationalité française pour que enfin, ces colonies deviennent une partie de la France. Et c'est aussi l'idée de l'Union française.
Oui, mais ça ne passe pas, ça, aux yeux des journalistes afro-américains.
Absolument pas. Ils sont outrés. Parce que pour eux, c'est l'indépendance ou rien d'autre. Il y a deux différences entre ces deux interlocuteurs. D'abord, il y a la différence de langue. Donc, Eboué-Tel opère vraiment, non seulement qu'elle parle français, mais elle opère dans un système francophone où la colonisation était basée sur cette idée d'assimilation, ce qui n'est pas le cas dans les colonies anglophones. Et donc, pour ces journalistes africains-américains, c'est choquant d'entendre qu'on essaie de se lier plus à la métropole plutôt que de se libérer. Pour eux, cette liaison ne peut pas être une libération.
Chers amis et invités, à travers vous toutes, je salue les vaillantes femmes de vos pays respectifs qui ont toujours lutté avec acharnement pour la libération de l'Afrique, pour la réalisation de l'unité africaine, pour le bien-être des enfants, pour l'émancipation rapide de la femme africaine et pour la réhabilitation de sa personnalité. Vos sœurs du Mali sont heureuses de vous recevoir dans leur capitale où depuis plus de 16 ans est allumé le flambeau de l'unité africaine. En effet, en ce siècle des grands ensembles, où la solidarité de tous les peuples du monde est une nécessité pour la sécurité de l'humanité, il serait regrettable et même condamnable que les femmes d'Afrique vivent divisées et séparées des autres femmes du monde.
Vous êtes bien sur RFI, mais avec une oreille connectée à Bamako avec Awa Keïta. C'est un extrait de son discours d'ouverture du comité préparatoire du Congrès des femmes d'Afrique, retransmis par Radio Mali. Et c'est un extrait d'un numéro de La Marche du Monde sur RFI. C'est à réécouter sur Pure Radio. Awa Keïta, donc, alors, née en 1912 à Bamako, Soudan français à l'époque, qui aura vécu une expérience positive dans le foyer des métis, ce qui était une rareté hein, à l'époque. Elle devient sage-femme et elle devient une figure puissante du syndicalisme et du féminisme anticolonial et communautaire. Et elle aura eu le grand mérite de signer son autobiographie, ce qui est un trésor pour vous, Annette, parce que la grande difficulté de votre travail, c'est... autour de ces femmes invisibilisées, c'est justement de trouver des archives. Alors, qu'est-ce qu'il y avait dans cette autobiographie d'Awa Keïta ?
On retrouve Awa Keïta qui raconte le rôle important que les femmes maliennes ont joué dans l'indépendance. Donc surtout au sein du parti du Rassemblement démocratique africain, le parti RDA. Elle parle vraiment de l'engagement des femmes.
Rurales.
Voilà, des femmes rurales. Donc ça, c'est très important aussi. Ce sont des femmes analphabètes. Et donc, dans son autobiographie, en fait, Awa Keita se donne la tâche de transmettre leurs histoires, des histoires qu'elles ne vont pas pouvoir écrire. Donc, on parle ici de la transformation de l'oralité, en fait, à l'écriture. Et c'est une autobiographie qui se démarque par le fait qu'on trouve très rarement « je » dans cette autobiographie, parce que ça ne raconte pas la vie d'une femme singulière, mais vraiment d'une communauté. C'est une autobiographie qui met l'accent sur le « nous ».
Votre conclusion à vous, Annette Joseph Gabriel, au terme de cette étude, c'est qu'au-delà de l'empire colonial français qui a imposé ses multiples frontières, est-ce qu'on peut dire qu'un empire féminin s'est constitué, on va dire, malgré ou avec ces fameuses frontières ?
Un empire féminin, c'est vraiment intéressant comme formulation. Oui, quand on lit les écrits de ces femmes, c'est un monde qu'elles imaginent. Ce sont des femmes qui ont vécu dans un monde qui n'existait pas encore, mais elles ont vécu comme si ce monde était déjà une réalité. Ce sont des femmes qui se sont présentées pour des élections à une époque où on voyait très peu de femmes, par exemple. Donc vraiment, on peut bien sûr parler d'un empire de femmes.
If I had Ghana in my hand, I've said one thing already about trying to bridge the traditional and the
culture.
Yeah, the culture with modern politics. Because I feel that if we are able to do that, it will recondition all our minds into knowing that it's important to care about Ghana and make Ghana work.
Je ne vous présente pas l'ex-première dame du Ghana, qui est un élément de réponse à la petite question en sol majeur. D'où vient ce féminisme, Annette Joseph Gabriel, que vous avez chevillé au corps?
Ce féminisme vient de ma grand-mère qui dansait sur la place de l'Indépendance.
Quelle belle image.
Et qui avait ma mère dans ses bras. Ce féminisme vient de ma mère qui était journaliste rattachée au président Jerry Rawlings et sa femme Nana Akunedu.
Dont on entend la voix.
Alors, elle ne partageait pas toujours leur vision politique, mais elle a beaucoup voyagé en fait avec eux pour faire des reportages sur leurs activités justement après le coup d'État qu'a mené Jerry Rawlings. Il a voyagé un peu partout, en Amérique du Sud, par exemple. Donc, ma mère me raconte des histoires, par exemple, sur sa visite à Cuba, où elle rencontre Fidel Castro. Wow. Et voilà, ce sont ces expériences qui me font m'interroger. Quand je lis des histoires, je vois que les noms des hommes, mais les femmes étaient présentes. Et c'est à partir de là que je commence à m'interroger aussi sur le cadre, le monde francophone.
Dans quel féminisme, mouvement féministe contemporain vous vous retrouvez ? Aujourd'hui?
Ouh, ça c'est une question difficile. Je me retrouve bien sûr dans les écrits aux États-Unis de Audre Lorde, de Bell Hooks, de Angela Davis, les écrits assez radicaux d'ailleurs d'Angela Davis, de
Claudia exemple.
Jones. Quand j'évoque toutes ces femmes, surtout Angela Davis, Claudia Jones, je pense vraiment à leur implication avec la pensée marxiste, avec le communisme, ce que ça veut dire d'être encore plus gauche que la gauche. C'est vraiment un féminisme qui met l'accent sur les structures d'inégalité au niveau de la classe sociale qui empêche aussi cette solidarité féminine. Et donc, voilà, je me retrouve dans ces écrits, mais je me retrouve aussi dans des mouvements contemporains comme l'afroféminisme en France. Je pense à des associations comme Moissy qui reprennent vraiment le flambeau, on va dire, de ces femmes du XXe siècle, mais qui font ça à l'extérieur du pouvoir institutionnel, contrairement aux femmes au XXe siècle. Donc, je vois, par exemple, l'expression poétique, les réunions qui se font au niveau de la communauté, comme vraiment des actions féministes aujourd'hui, qui sont très
importantes.
Dans quelle langue parlez-vous d'amour?
C'est une question très difficile. Malheureusement, en anglais. Parce que l'anglais, c'est ma langue maternelle du fait de l'histoire coloniale du Ghana. Mais bien sûr, je parle d'autres langues aussi. Quand je pense à l'amour familial, je parle le gan. parce que c'est la langue qu'on parle dans ma famille. C'est la langue du groupe ethnie qui vient du sud du Ghana.
Vous pourriez dire un petit mot à la famille dans cette langue?
Oui, pourquoi pas. Minganyefe, Mindanyeshi.
Voilà, tout le monde est content.
Oui, voilà, voilà, je salue toute la famille en fait.
Donc beaucoup de langues, mais il y a du malheureusement dans ces langues, hein.
Oui, 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 bien sûr, parce que pour moi, en tant que quelqu'un qui a, enfin, ma formation, c'est dans la littérature, j'ai une formation littéraire, de ne pas savoir lire une langue que je parle avec ma mère, c'est assez douloureux, parce qu'il y a plein de choses qui se transmettent à l'écrit, qu'on perd dans ce cas-là. Donc, ce que nous venons d'entendre, par exemple,
oui.
Ce sont des vœux pour le début de l'année, mais c'est un discours que j'ai dû demander à ma mère de traduire pour moi à une époque, parce qu'il y a des mots qu'on n'utilise plus aujourd'hui, qui sont remplacés par l'anglais. Mais ce sont des vœux que j'aime bien parce que c'est une vision différente du temps, en fait, de la temporalité. Quand on dit « bonne année », par exemple, en français ou en anglais, on pense au temps qui avance de manière linéaire. Tandis qu'ici, quand on dit « afio afi aya afia yane baninawo », on parle de l'année qui part et qui revient nous retrouver. Donc en fait, c'est l'année qui est le personnage dans cette histoire et pas nous en fait. Et je trouve ça une manière peut-être un peu cyclique de comprendre la temporalité plutôt que de manière linéaire que je retrouve en anglais.
Une langue, c'est une vision du monde, on le sait bien.
Oui.
Alors, vous êtes née en 86 à Tema au Ghana, Annette, où vous avez grandi. Vous partez à 18 ans pour faire vos études donc aux États-Unis et puis vous nous racontiez que vous débarquez en Martinique, cette fameuse Martinique qui est venue se greffer. C'est un parcours un peu atypique, mais je remarque en faisant en sol majeur qu'être africain anglophone et africain francophone, évidemment, ça n'a rien à voir, notamment dans la manière de se libérer intellectuellement, mentalement, du joug ou de la pensée coloniale. Vous qui naviguez sentimentalement, linguistiquement, à quoi ça tient, vous pensez ?
À mon avis, c'est dû au modèle différent du colonialisme que nous avons subi, donc qui est basé sur la même idée, qui est l'idée de la suprématie blanche. Et pourtant, ça s'est manifesté de manière différente.
Oui.
C'est-à-dire que la politique de l'assimilation qu'on retrouve dans les colonies francophones n'était pas du tout le cas dans les colonies anglophones. Il n'y avait pas cette possibilité de s'assimiler assez pour atteindre à la nationalité anglaise, par exemple. C'est risible comme
idée. Dissoudre sa culture première.
Exactement, exactement.
Donc, ce n'était pas demandé dans les colonies anglaises.
Exactement, c'est ce qui a fait qu'on avait quand même une sorte de solidarité dans la communauté locale. Et à mon avis, c'est là qu'il faut puiser, en fait, pour mieux travailler la solidarité entre les territoires anglophones et francophones. Quand on se parle en anglais et en français, on voit vraiment ces différences. Mais quand on se parle dans nos langues locales, on se comprend beaucoup mieux, à mon avis, parce qu'on a une vision partagée du monde, comme on vient de dire. Et je pense que c'est à travers cette communication dans les langues locales que nous allons vraiment réussir à renouer les liens entre des communautés qui ont été divisées. C'était des communautés on avait plein de choses en commun, mais qui ont été divisées par la colonisation, par ces frontières arbitraires.
C'est intéressant, je note tout ça. En tout cas, vous êtes en train de travailler sur une autre langue en ce moment, celle des récits des enfants esclaves. Il y a eu des enfants esclaves à Paris, évidemment, au Sénégal et à New York. Qu'est-ce qui vous intéresse dans ces récits, Annette ?
Tout comme dans le premier livre, ce qui m'intéresse, c'est de faire entendre des voix qui sont tombées entre les failles, les voix qu'on n'entend plus, en fait, dans les récits dominants. Et donc, ce sont des enfants qui ont subi l'esclavage, mais qui, eux aussi, avaient une vision de la liberté.
Ce sont des langues qu'on n'entend plus, comme vous dites, mais qui ont été intériorisées inconsciemment chez les descendants.
Oui, absolument. Donc, quand on parle de la liberté aujourd'hui, par exemple, quand on pense à ce que ça veut dire d'affirmer sa présence, d'affirmer son humanité, ce sont des choses que je retrouve aussi dans ces textes des enfants qui écrivent des histoires, des chansons, des lettres au 18e et au 19e siècle.
Dans une langue incroyable, hein. On va en entendre un petit extrait. Vous êtes une chercheuse de langue, hein. On va écouter un petit extrait de ce récit d'esclave juste avant Prince Nico Mbarga, qui va refermer son sol majeur. Et ça, ça va faire plaisir à tous nos auditeurs. Merci d'avoir fait le voyage de votre Caroline du Nord, chère Annette Joseph Gabriel Tecker. Ça fait 15 ans que vous écoutez en sol majeur, donc oui. On vous aime sans le savoir depuis 15 ans.
Oui. Lettre de Jean Montagu, âgé de 8 ans, à Benjamin Franklin, Paris, le 25 juillet 1780. Monseigneur, j'ai l'honneur de vous assurer de mon très humble respect. J'ai celui de vous faire savoir que j'appartiens à Monsieur le capitaine Robson. Il m'a fait des menaces de me frapper. Pour lors, j'ai trouvé M. Tessier gentilhomme qui désire faire mon bonheur. M. Robson l'a su et m'a fait arrêter et fait constituer prisonnier au Petit Châtelet parce que le commissaire lui a dit qu'il n'y avait pas d'esclaves en France. Je ne demande pas mieux de rentrer chez M. Robson parce que si je n'avais pas été détourné par M. Tessier, je n'aurais jamais sorti. Je vous supplie, Monseigneur, de vouloir bien faire mes excuses à M. Robson et que je ferai tout ce qu'il dépendra de moi pour le contenter. C'était qu'il voulait me faire baptiser. J'espère, de vos bontés, que vous voudrez bien me faire rendre justice. Il y a de ma faute de peu d'expérience que j'ai, n'étant pas avancé en âge. Je réitère de vous supplier de vouloir bien parler pour moi à M. Robson. Je vous en serai toute ma vie reconnaissant. Et vous supplie de me croire, avec tout le respect qui vous est dû, en attendant une petite réponse, Monseigneur. Votre très humble et très obéissant serviteur soumis, Jean, nègre de Monsieur Robson.
Nico Mbarga dans l'ensole majeur d'Annette Joseph Gabriel, émission à retrouver en podcast sur Pure Radio et dans Afrique Mémoire d'un continent au micro d'Elgas, ce sera le 9 mars. Caroline Filiette, Théo Raison, Yasmine Chouaki. Samedi prochain, direction la Bosnie au bras de Velibor Kolic. Dans un instant, votre journal suivi de La Marche du Monde.